RMC Intégral Tour, Fred Adam.
L'intégral tour en direct de Pau où le Tour de France fait escale pour la traditionnelle journée de repos. Qu'elle a fait du bien à tous les coureurs cette journée et qu'elle a fait du mal chez Tinkoff Saxo avec l'annonce du cancer d'Ivan Basso qui a été contraint de quitter la course. On en reparle dans quelques instants avec toute la Dream Team, Thierry Bourguignon, Luc Leblanc et bien sûr Cyril Guimard. Mais tout de suite, c'est la seconde édition de RMC Sport avec Martial Fernandez. Salut Martial.
Salut Fred, bonsoir à tous. Tu en parlais, la mauvaise nouvelle pour Ivan Basso lors de cette journée de repos du Tour de France à Pau. Le coureur italien qui souffre d'un cancer des testicules, il l'a appris ce matin. Le coéquipier d'Alberto Contador abandonne, double vainqueur du Giro. Il avait été suspendu 2 ans pour dopage en 2006. Il est venu en début d'après-midi annoncer son départ en Italie pour aller se faire soigner.
Normalement, je ne devrais pas être là aujourd'hui, mais j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer. Lors de la 5e étape, j'ai fait une toute petite chute, mais à ce moment-là, mes testicules ont tapé contre la selle du vélo. Pendant quelques jours, j'ai ressenti une petite douleur, et hier, nous avons décidé de faire des analyses plus poussées. Les résultats ont malheureusement apporté une mauvaise nouvelle, puisqu'ils ont révélé un cancer au niveau de mon testicule gauche. Vous comprenez que le tour s'arrête pour moi, je dois rentrer en Italie pour me soigner. Je veux remercier mon équipe pour son soutien dans ce moment difficile, ainsi que toute l'organisation du Tour de France. Et à mon tour, je soutiens l'équipe et Alberto pour la suite.
Ivan Basso avec Mathieu Dalzovo. Demain, l'équipe d'Alberto Contador repartiront donc sans Basso avec un terrain favorable à une belle bagarre. Tarbes-la-Pierre-Saint-Martin, 167 km. Avec un col hors catégorie de 15 km, le début des Pyrénées d'une semaine chargée. Romain Bardet, coureur âgé de Zer, la mondiale, qui est à 4 minutes 38 du maillot jaune. Chris Froome.
Ça va être demain très très dur déjà. Un premier vrai test annoncé entre les favoris, donc beaucoup d'appétit pour pas mal de leaders demain. Et puis voilà, une étape traditionnelle du Tour le lendemain avec certainement la première échappée du Tour qui va disputer la victoire. Enfin, un autre gros test du côté du plateau de Baye avec une belle étape, quelques difficultés avant. Voilà, le gros morceau va vraiment dans les Alpes.
Si Salvatore Sirigu le souhaite, le PSG ne s'opposera pas à un départ. C'est ce qu'a dit cet après-midi le directeur sportif parisien Olivier Létang. L'Allemand Kevin Trapp, fraîchement arrivé, est donc bien parti pour être le numéro 1 au poste de gardien. Mais Trapp est plutôt bien élevé. Il ne veut se fâcher avec personne et surtout pas avec Sirigu.
Avant toute chose, je ne veux pas m'exprimer sur les autres gardiens. Je m'occupe de moi, de ce que je fais bien et de ce que je peux apporter à ma nouvelle équipe. Mon objectif, c'est de gagner des titres pour pouvoir ensuite jouer en équipe d'Allemagne. Ce ne sera pas facile, je le sais, mais le plus important, c'est de rester concentré sans penser aux autres.
Kevin Trapp au micro de Benoît Boutron, interview à retrouver sur le site rmcsport.fr et les Parisiens qui partent en stage pendant 2 semaines et demie aux États-Unis à partir de mercredi. Morgan Schneiderlin, nouveau joueur de Manchester United, cette fois c'est sur le français, quitte Southampton. Il signe un contrat de 4 ans. L'ancien monégasque Mounir Obadi est officiellement lillois. Et puis le club d'Evian a son nouvel entraîneur, c'est Safet Susic qui s'est engagé ce matin. Les clubs de Ligue 2 vont-ils aller au clash? Ils veulent faire annuler la décision de la Ligue qui prévoit dès cette saison seulement 2 descentes et de monter entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Les présidents de Ligue 2 envisagent maintenant de saisir la justice. Pour l'instant, pas de boycott prévu pour les premières journées de championnat. Mais attention, prévient Jean-Pierre Louvel, président de l'UCPF, le syndicat des clubs pro.
Notre objectif, c'est d'abord le respect de tous les clubs. Encore une fois, nous avons besoin des clubs européens. Le football français a besoin de ces clubs-là. Mais en même temps, c'est pas d'effacer l'ensemble du football français et de faire fi et du football amateur et du football des clubs de Ligue 2 dans lequel, je rappelle, il y a des investisseurs, il y a des centres de formation performants et on le voit bien puisque très souvent nos joueurs passent par la Ligue 2 puis par la Ligue 1. Donc tout ça doit être respecté, c'est ce qui nous semble ne pas être aujourd'hui ou ne plus être aujourd'hui.
Jean-Pierre Louvel avec Louis Amar, puis l'équipe de France de Coupe Davis au travail au Queens à l'ombre. Tsonga, Simon, Gasquet, Mahut et Herbert en pleine préparation de leur quart de finale sur gazon face à la Grande-Bretagne d'Andy Murray à partir de vendredi. Les 19h10 sur RMC, la suite de l'intégral tour en direct de Pau avec Fred Adam.
Oui, en direct de Pau sous le soleil. Heureusement, on nous a mis une petite tente. On est à l'extérieur du Palais Beaumont, du casino. C'est un lieu traditionnel de journée de repos sur le Tour de France. C'est parfois entre le dernier massif, les Pyrénées et Paris. Mais la plupart du temps, c'est avant les Pyrénées. L'intégral Tour avec la Dream Team RMC. Luc Leblanc, qui a du mal à se remettre du long transfert. 750 km cette nuit entre Plumelec hier soir et Pau. Cyril Guimard, bonsoir.
Bonsoir, et il faut le dire, avec une voiture à pédale.
Oui, mais avec Luc, ça passe très très bien.
Bonsoir Fred.
Et Thierry Bourguignon qui est avec nous comme tous les soirs. Bonsoir Thierry.
Bonsoir messieurs. Salut, est-ce que c'est le transfert ou c'est la soirée?
La soirée, tu rigoles ou quoi? Toi, t'es resté au bord de ta piscine et nous, on était dans la voiture pendant 7 heures. 8 heures même.
On va pleurer un petit moment. Alors, une minute de silence pour Lucho, s'il vous plaît.
Oui. Et pas de minute de silence pour la mauvaise annonce, mauvaise nouvelle du jour. On n'en est pas là. On vous rappelle la principale information de cette journée de repos. C'est traditionnellement un peu agité, le repos à Pau. On avait eu, il y a quelques années, Rasmussen hors du tour avec le maillot jaune sur le dos. Vinokourov positif aux transfusions dans la foulée. Il y a 2 ans, on avait appris le contrôle positif de Frank Schleck. Aujourd'hui, ce n'est pas un contrôle positif et il faut bien le rappeler, ce n'est pas un cas de dopage, mais la mauvaise nouvelle, c'est celle dont Martial vient de vous parler dans son édition d'RMC Sport. C'est cette annonce d'Ivan Basso qui a déclaré être atteint d'une tumeur cancéreuse à un testicule. Il a dû quitter la course, le coéquipier d'Alberto Contador chez Tinkoff Saxo, quitter la course pour aller subir un traitement le plus rapidement possible. Cyril, quitter la course comme ça, c'est douloureux pour soi-même, évidemment. Est-ce que cela aura des incidences sur l'équipe Tinkoff Saxo et donc sur Alberto Contador, le leader espagnol, qui pointe à un peu plus d'une minute du maillot jaune de Christopher Froome au pied de la montagne, lui qui rêve toujours du doublé Giro Tour de France?
Oui, ça peut avoir quelques incidences, mais qui pour moi n'en sont pas compte tenu des circonstances, et que le problème de Basso dépasse largement le problème de Contador ou de l'équipe Tinkoff. Sur un plan purement sportif, je ne pense pas que ça aura une incidence énorme, dans la mesure où Ivan Basso n'a plus le rendement, ou n'avait plus le rendement qu'on lui a connu à une certaine époque, et il servait plus de capitaine de route et de régulateur, mais ce poste peut très bien être pris par d'autres coureurs de cette formation, et Contador lui-même fait partie des hommes qui ont énormément d'expérience sur les grands tours, et donc l'absence de Ivan Basso peut être gommée sans aucun problème. Sur le plan psychologique, ce sera peut-être plus difficile.
Ivan Basso, 37 ans, on le rappelle, l'un des doyens, l'un des vétérans du Tour de France, double vainqueur du Tour d'Italie, qui avait terminé troisième en 2004 et deuxième une année plus tard derrière Lance Armstrong. Il avait évolué dans sa première partie de carrière sous le joug de Lance Armstrong. Et ironie du sort, Lance Armstrong, on s'en souvient, avait connu la même pathologie, un cancer des testicules avant de revenir dans les conditions que l'on sait. Vainqueur d'étape, d'une étape à la Mongie, Ivan Basso, qui est donc en route en ce moment même vers Varèse en Italie, sa maison. Ivan Basso qui a eu des démêlés avec le dopage pris dans les filets de l'affaire Puerto en 2006. Alors, le rapprochement est évident, messieurs. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre les aveux de Basso, qui a avoué un dopage, notamment un dopage sanguin avec le docteur espagnol Fuentes, et cette pathologie? Thierry, Luc, vos réactions d'anciens coureurs?
J'ai toujours dit qu'un sportif ne pouvait plus avoir un cancer, parce que forcément, ça allait être vite interprété, et le raccourci que tu as évoqué tout à l'heure avec le dopage, il peut être très rapidement fait. Pour ma part, j'ai un ami qui a eu le cancer des testicules, et loin de là, il n'était absolument pas sportif. Donc il y a peut-être une cause à effet, mais franchement, le raccourci est un peu trop rapide à faire, et c'est trop compliqué pour que je puisse même.
Mais je pense que c'est pas
y penser.
C'est pas à nous de faire le rapprochement entre la pathologie de d'Ivan Basso et le dopage. Je pense que il y a quelques personnes qui pourront le dire, ce sont les professeurs qui font des examens sur Ivan Basso dans les prochains jours, qui pourront dire éventuellement si son cancer est dû à la prise de produits dopants durant toute sa carrière.
Alors Ivan Basso qui avait chuté sur la 5e étape du Tour de France en direction d'Amiens, depuis il a reconnu avoir des douleurs, il a passé des examens ici même à Pau et le résultat était clair, il fallait traiter ce problème. Luc, tu parlais des professeurs qui vont examiner et traiter Ivan Basso en Italie. On est en ligne avec un médecin et pas n'importe lequel. C'est le docteur de l'équipe française de la formation française FDJ, Gérard Guillaume. Bonsoir Gérard, merci d'être avec
bonsoir.
Nous.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Gérard.
Bonsoir.
Vous avez entendu évidemment les propos que l'on a tenus en ouverture de cet intégral tour. Ivan Basso qui a dû filer en catastrophe, qui n'était pas le plus peiné, semble-t-il, cet après-midi à la conférence de presse des Tinkoff Saxo. Il a évoqué sa douleur et sa pathologie assez sereinement, aux côtés d'un Alberto Contador beaucoup plus ému, beaucoup plus touché apparemment, à la limite des larmes, l'Espagnol. Parlez-nous un peu de ce cancer des testicules. On se souvient qu'il y avait un coureur français d'ailleurs qui avait eu la même pathologie, qui avait dû mettre sa carrière entre parenthèses. C'était Sébastien Joly qui était passé par les rangs de la FDJ.
Dont j'étais le médecin à l'époque.
Bien sûr, Gérard Guillaume, parlons clairement. Est-ce qu'il y a un lien de causalité entre l'absorption de produits dopants, les pratiques dopantes et le cancer des testicules?
C'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer du testicule, c'est 2% des cancers de l'homme, mais c'est un tiers des cancers du jeune homme. Et ce cancer du testicule se voit essentiellement avant 40 ans. Essentiellement avant 40 ans. Et on sait qu'aujourd'hui, que la proportion augmente de plus en plus. Les causes principales, la première des causes, c'est dans les antécédents, l'absence de descente du testicule, ce qu'on appelle la cryptorchidie. Et bien entendu, il y a des traitements hormonaux possibles. Donc, c'est évident qu'on peut soupçonner le dopage, mais il y a aussi aujourd'hui d'autres éléments, parce qu'on s'aperçoit que la répartition géographique des cancers du testicule, elle n'est pas univoque, elle les prédomine plus dans des milieux ruraux que dans des milieux urbains, et ça a amené à s'interroger sur des facteurs environnementaux. Et les facteurs environnementaux en question, ce sont les pesticides, ce sont les perturbateurs endocriniens. Donc voilà, donc il y a plein de causes possibles, dont le dopage, évidemment.
Les pesticides, eh ben voilà qui promet pour l'avenir. Il y a une recrudescence, docteur Guillaume, des cancers du testicule.
Indiscutablement, il y a une recrudescence inquiétante chez les sujets jeunes et plus particulièrement des sujets, ce que j'ai dit, ruraux. Et ce qui a amené à évoquer cette hypothèse de l'implication des pesticides, des perturbateurs endocriniens. Alors, perturbateurs endocriniens, ça veut dire que ce sont des produits chimiques qui se retrouvent en particulier dans l'eau, en particulier dans l'eau et dans certains aliments, et dont l'origine, ce sont des hormones qui sont jetées comme ça, soit par des usines, soit les médicaments qu'on balance comme ça d'une façon complètement irresponsable, qui se retrouvent. Donc ça veut dire que les hormones qu'un sportif peut prendre, la testostérone, des stimulateurs des différents, peuvent bien sûr jouer dans la genèse d'un cancer des testicules, mais on ne peut pas s'arrêter à ça.
Très intéressant. Docteur Guillaume, une dernière question. Vous êtes au contact de l'équipe FDJ sur ce Tour de France. Comment ont réagi les coureurs à l'annonce du cancer d'Ivan Basso et son retrait de la course?
Moi, je les ai pas. On m'en a même pas parlé. Je l'ai appris assez tard, assez tardivement, et les coureurs étaient tous occupés à ce moment-là, moi le premier. Donc, allez voir, on n'en a pas parlé plus que ça. Mais de toute façon, c'est ce que je leur ai dit. Donc, avant d'accuser le dopage, il faut savoir que c'est un cancer de l'homme jeune. Par définition, il est jeune encore. Il a moins de 40 ans. Et encore une fois, c'est un cancer qui est en progression. Heureusement, a un très bon pronostic, et ce, depuis des dizaines d'années. Et
est-ce que ça soigne bien, le cancer?
C'est celui qui se soigne le mieux, et depuis très longtemps, depuis au moins une quarantaine d'années. C'est un cancer qui réagit très très bien au traitement.
Merci beaucoup, docteur Guillaume, et bonne soirée, soirée de repos, me semble-t-il, à la FDJ ce soir, avant d'attaquer la trilogie pyrénéenne dans les prochains jours. À bientôt.
Je vous en prie, merci. Bonsoir.
Au revoir, Gérard. Au revoir.
Voilà, voilà qui disculpe à première vue Ivan Basso. C'est vrai que le raccourci est évident, le précédent Lance Armstrong...
Il est trop facile.
Oui.
Il est trop...
Donc on ne le fera pas, ce pas qui est si facile à franchir, on ne le fera pas. Bertrand est avec nous au 32-16, n'hésitez pas à nous contacter au 32-16 et à réagir d'ailleurs à l'actualité du Tour de France et du sport en général via le hashtag RMC Live. Sur Twitter. Bertrand est avec nous. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir Dream Team.
Bonsoir Bertrand.
Bonsoir.
Bertrand, originaire de la Sarthe, c'est bien ça?
Oui, exactement. Je voulais parler d'Ivan Basso parce que, indépendamment de la maladie qu'il frappe, malheureusement, j'avais envie de dire que déjà au Giro, il avait fait un très mauvais Giro. Dans la montagne, il n'avait pas été d'une aide très très importante à Albert Contador. D'ailleurs, toute son équipe complète n'avait pas été très brillante de ce côté-là. Et moi, j'avais été surpris justement qu'il soit repris 3 semaines plus tard pour le Tour de France. Déjà, moi à l'époque, enfin quand j'ai vu la composition de l'équipe, pour moi, c'était une erreur de casting. Mmh. Il est sorti assez mauvais du Giro, donc je pense qu'il devait être déjà très fatigué. Peut-être qu'il y avait déjà une réponse à ce qu'on sait maintenant. Et il me semble que ça va pas être
une grosse perte
pour Contador, parce que de toute façon je pense qu'on ne l'aurait pas vu dans la montagne avec lui. Je pense qu'il aurait été lâché assez rapidement.
D'ailleurs, je suis pas trop d'accord moi avec vous.
Oui, Luc.
Non, je suis pas trop d'accord avec vous. Bon, Ivan Basso a quand même beaucoup d'expérience hein, par son passé. Je pense que s'il fait partie de l'équipe de Contador, c'est plus, je pense, un confident pour Contador, un ami. Et je crois que psychologiquement pour Contador, c'est très important d'avoir un ami à ses côtés pour le soutenir, même si il est beaucoup moins performant que les années passées. Et dans une équipe, vous avez 8 coureurs et le leader. Donc le leader a besoin de ses coursiers, ses coureurs, ses équipiers pour l'accompagner dans la montagne, ça c'est clair et net. Mais aussi peut-être d'avoir un ami, un confident aussi à ses côtés pour le soutenir moralement, c'est très important. Et je crois que c'est le rôle que devait jouer aussi peut-être Ivan Basso aux côtés de Contador.
Oui, mais l'autre chose, ce qu'on disait, c'est simplement sportivement. Sportivement, c'est vrai qu'Ivan Basso, on le voit mal l'accompagner dans les derniers kilomètres des arrivées comme demain.
Oui, on rappelle que dans l'équipe Tinkoff Saxo, il y en a d'autres qui sont capables de tirer de grands bouts droits. Les Kreuziger, les Michael Rogers, Rafał Majka également.
Majka.
Cyril, le départ d'Ivan Basso, ça va peser ou pas?
Je ne pense pas que ça puisse peser sur le déroulement de la course. Luc a raison en disant que il n'est plus très efficace et sur le Giro il ne l'était pas. Je n'ai pas le sentiment qu'il pouvait être d'un grand soutien dans les moments clés du Tour de France.
Merci Bertrand en tout cas.
Psychologiquement, de toute façon, je pense que ça va toucher quand même, et tu l'as dit toi-même à la conférence de presse, il était Alberto Contador était touché.
Thierry, on va remercier Bertrand pour son intervention. Et puis on va écouter à nouveau Ivan Basso, qui est le bonhomme de la journée, malgré de malheureuses circonstances. Ivan Basso, interviewé tout à l'heure par Mathieu Delzovo.
Normalement, je ne devrais pas être là aujourd'hui, mais j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer. Lors de la 5e étape, j'ai fait une toute petite chute, mais à ce moment-là, mes testicules ont tapé contre la selle du vélo. Pendant quelques jours, j'ai ressenti une petite douleur, et hier, nous avons décidé de faire des analyses plus poussées. Les résultats ont malheureusement apporté une mauvaise nouvelle, puisqu'ils ont révélé un cancer au niveau de mon testicule gauche. Vous comprenez que le tour s'arrête pour moi, je dois rentrer en Italie pour me soigner. Je veux remercier mon équipe pour son soutien dans ce moment difficile, ainsi que toute l'organisation du Tour de France. Et à mon tour, je soutiens l'équipe et Alberto pour la suite.
Voilà, Ivan Basso, 37 ans, coéquipier d'Alberto Contador, qui a quitté la course dans de douloureuses circonstances. L'intégral tour ici à Pau, à la veille du début de la haute montagne. On en reparle dans quelques instants, toujours avec la Dream Team. N'hésitez pas à venir au 32-16 discuter avec nous des copieux menus qui se présentent bientôt. Dans quelques instants, on va parler des Français et notamment des AG2R La Mondiale, Jean-Christophe Perrault, Romain Bardet, et revenir sur la révélation Alexis Villermoz. On aura un invité, le mentor d'Alexis Villermoz. C'est dans quelques instants dans l'Intégral Tour.
RMC Intégral Tour, Fred Adam.
L'intégral tour en direct de Pau, où la caravane du Tour de France, les suiveurs, les coureurs, tout ce beau monde qui gravite autour de la plus grande course du monde s'est arrêté au pied des Pyrénées. On l'aperçoit là-bas, la chaîne des Pyrénées. Pour l'instant, on en est loin, mais demain, il faudra monter tout là-haut à la Pierre Saint-Martin, arrivée inédite sur le Tour de France. Col hors catégorie, long de plus de 15 km. Premier vrai juge de paix du Tour de France pour les favoris, les prétendants à la victoire finale et pour les Français. Les Français, d'ailleurs, sont-ils toujours dans le coup pour des places d'honneur, un podium? Cyril, est-ce que c'est aussi brillant? Est-ce que ça s'annonce aussi brillant que l'année dernière?
Non. Ça ne peut pas être aussi brillant que l'an dernier.
Perrault deuxième, Pinot troisième, voilà, je le rappelle.
Et sixième ou septième pour Bardet.
Sixième.
Donc là, il faut oublier. Il faut oublier parce que les positions sont telles que... c'est bien que... vous me posiez la question, Frédéric, parce que je me suis amusé à faire un petit classement virtuel par rapport aux coureurs qui vont sauter. Dont on sait qu'ils vont sauter.
Parce que c'est sûr, il n'y aura pas tout le monde là-haut à la Pierre Saint-Martin demain.
Oui, c'est vrai. Donc on se retrouve avec Froome, Van Garderen, Contador, Rigoberto Urán.
Ça fait 4 déjà.
Valverde, Quintana, Nibali. Et puis on arrive à la 8e place.
Oui.
Et à la 8e place, on retrouve Barguil à 2,43. On retrouve, non pas à la 17e, mais à la 12e place, Perrault à 3,30. Et on trouve à la 16e place, Bardet avec 4,38. Et un petit peu plus loin, mais peut-être un peu trop loin, Villermoz, Pinot, et encore beaucoup, beaucoup plus loin, Pierre Roland. Ce qui veut dire que dans la configuration telle que je la fais là...
Oui, là c'est du virtuel, il faudrait que tout le monde arrive groupé.
C'est du semi-virtuel.
D'accord.
C'est du semi-virtuel parce qu'on sait que, par exemple, Galopin ne va pas rester là, Peter Sagan ne va pas rester là non plus, Geraint Thomas non plus.
Galopin saute demain, il passe par la fenêtre.
Ah, demain, sur la dernière montée. Enfin, il passe par la fenêtre, il va pas prendre une musette. Mais bon, encore qu'il peut très bien tout simplement dire « j'ai pas de chance, je suis pas dans mon élément et je finis dans l'autobus ». Donc Galopin va sauter, Kreuziger, on n'en sait trop rien, mais Stibar, oui. Enfin, donc quand on regarde tous ceux dont on sait qu'ils vont sauter, par rapport aux qualités de grimpeurs, bien sûr, de Barguil, Perrault, Bardet, eh bien on peut dire que ces trois coureurs-là ont encore la possibilité. Alors bien sûr, il ne faudra pas qu'ils sautent eux.
Eh oui.
C'est la condition. Mais en virtuel, pour l'instant, Barguil est 8e, Perrault est 12e, Bardet est 16e, suivant bien sûr. Et cela n'engage que moi, mes considérations personnelles.
On parle français. Rappelons que demain, c'est aussi le grand jour pour ceux qui veulent mettre à mal la domination de Christopher Froome, qui a le maillot jaune sur les épaules, apparemment très très bien accroché. Les Contadors, les Quintana, les Nibali, les Valverde. Luc, est-ce qu'il faut qu'ils se découvrent dès demain?
Il faudrait de toute façon, il faut pas attendre, je dirais, les Alpes pour essayer de se découvrir et essayer d'inquiéter Froome, parce que Froome, plus ils vont attendre d'attaquer, et plus ça va faire les bonnes choses pour Froome. Donc il va falloir attaquer demain pour les Quintana, Nibali et autres, et Contador.
Alors où seront les Français dans ce débat en haute altitude? C'est la grande question, l'une des grandes questions en tout cas. Mathieu Dalzovo est allé à la conférence de presse tout à l'heure de l'équipe AG2R La Mondiale et a posé la question à Jean-Christophe Perrault, qui était le meilleur Français du Tour l'an passé, deuxième derrière Nibali. Jean-Christophe Perrault, désormais 17e du général à 3,30 de Christopher Froome. Écoutez-le, apparemment plutôt serein, Jean-Christophe Perrault.
Je pense que je suis toujours en course pour un top 10 et puis essayer de se rapprocher de la 5e place. C'est sûr que 3,30, ça commence à faire un bel écart. Maintenant, c'est 3,30 sur Froome et sur TG. Donc, je pense qu'ils seront durs à aller chercher. Après, ça en fait un peu moins sur les autres concurrents. On va se battre au jour le jour et essayer de grignoter des places. Une victoire d'étape sur le Tour, c'est un tour réussi pour toute une équipe. Donc ça c'est fait, donc c'est sûr que maintenant le groupe est détendu et tout ce qui arrivera sera du bonus.
Voilà, la victoire d'étape, elle a déjà été remportée chez AG2R La Mondiale par Alexis Villarmos, qui pourrait être l'invité mystère ou la surprise. Révélation, l'invité surprise.
Exact. Révélation, c'est fait.
Oui, 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 une victoire d'étape de la manière dont il l'a conquise à Mur de Bretagne l'autre jour, devant Dan Martin, Valverde, et puis au nez et à la barbe des grands favoris, dont le maillot jaune Christopher Froome. On la tient, effectivement. La révélation de ce Tour de France, Alexis Villarmos, 27 ans, surnommé Pikachu par ses coéquipiers.
Pikachu,
exactement. Alexis Villarmos, qui ne serait pas là dans le peloton professionnel, vraisemblablement plus là, sans l'aide d'un monsieur originaire du Jura et qui lui a filé un coup de pouce il y a 2 ans. Ce monsieur, c'est Daniel Germont, entrepreneur de Dôle. Il est avec nous, monsieur Germont. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous dans l'Intégral Tour.
Bonsoir.
Daniel Germont qui est présenté comme le mécène. Est-ce que ça vous convient, ça? Rappelez-nous les circonstances de votre rencontre avec Alexis Villarmos et en quoi il vous doit, soyons clairs, sa survie dans le peloton professionnel.
Les circonstances sont très simples. Le vélo club de Dôle organise un gentleman tous les ans mi-octobre. Mmh.
Une gentleman, c'est une épreuve de fin de saison où un amateur, presque un cyclo parfois, participe à un contre-la-montre en duo avec un professionnel.
Tout à fait. Et Alexis, bon, en fin de saison, l'arrêt de Sorso-Jacen le laissait un petit peu à l'abandon, puisqu'il a été prévenu quand même très tard. L'équipe Sorso-Jacen, comme Europcar actuellement, pensait pouvoir trouver un repreneur. Ça n'a pas été le cas. Certains coureurs ont arrivé à retrouver des équipes et Alexis restait sur le carreau. Mmh. Quand il est venu à la gentleman, j'ai fait partie avec Alain Chazal d'une équipe Chazal MBK Germont, une époque où on a fait 2 fois le tour. Et Vincent Lavenu était déjà le directeur sportif à l'époque. Vincent, je lui dis, un petit jurassien, tu veux pas me le laisser sur le carreau, etc. Mmh. Il me dit, écoute, cette époque-là de l'année, équipe complète, budget bloqué.
C'est trop tard.
Compte tenu de nos rapports, allez, ok, je le prends. La seule chose, c'est que le budget est bloqué. Si tu me donnes le coup de main, ok, on fait l'opération. Et ça s'est fait à peu près aussi simplement. Et Alexis a pu rejoindre l'équipe AG2R. Ce qui est le plus surprenant, c'est que l'ensemble des directeurs sportifs, l'ensemble des équipes n'aient pas discerné la valeur d'Alexis Villarmos à l'époque. Mmh. La fin du Tour 2013, il était dans les tout meilleurs à l'Alpe d'Huez. Alors, c'est vrai que j'ai un tout petit avantage aussi, c'est que Gérard Nicolet, qui est un Gaulois qui a été pendant 12 ans médecin du Tour de France, lui fait passer des tests 1 ou 2 fois par an. Et j'en ai parlé un petit peu avec Gérard Nicolet, qui m'a dit, écoute, compte tenu des tests, etc., je pense pas qu'il y ait beaucoup de surprises. Il n'y a pas de risque, l'homme est attachant. Et tout s'est passé un petit peu comme ça. Bon, la connaissance de Vincent Lavenu, les rapports avec Gérard Nicolet, qui le suit dans les tests à l'hôpital de Dôle, le tout confondu, ça l'a fait. Et je charrie un peu Vincent de temps en temps en lui disant bon, tu vois, t'as eu raison. Il me répond, si t'en as encore un ou deux comme ça, tu me les mets de côté, on doit pouvoir s'entendre. Donc, mais de là d'aller jusqu'à ce qu'a fait Alexis, et potentiellement on ne sait même pas exactement jusqu'où il peut aller actuellement.
Alexis Villarmos, qui, on le rappelle, vient du VTT, qui était passé professionnel chez Sorso-Jacen, qui a donc fait cette unique année dans l'équipe de Stéphane Hello. Et derrière, c'est donc vous, pour parler clairement, qui avez assumé son salaire pendant 12 mois la saison passée.
Voilà, j'ai assumé ça, pas la saison passée, celle d'avant. Oui, puisqu'autrement, bah, Vincent avait bouclé son budget. C'est vrai que le statut, les performances d'Alexis, le potentiel, oui, mais passer du VTT à la route, comme on le sait, même s'il y a des précédents très connus comme ceux de Evans notamment et bien d'autres, ont fait qu'il a, on l'a découvert. Et là, je pense que les surprises, vous citiez les potentialités, je crois que c'est Thierry Bourguignon qui sentait tout à l'heure des potentialités pour les Français. Le vélo est un sport individuel mais qui se pratique par équipe. Dans tout ce que vous avez cité, à part Quintana et Valverde qui sont tous les deux à la Movistar, il n'y a aucune équipe qui sur le papier puisse présenter Perrault, Bardet et Viermoz. L'équipage A2R La Mondiale et la notion d'équipe chez A2R, c'est pas un mythe. C'est du reste pour ça que l'année dernière, ou grâce à ça, et c'est son attachement à l'équipe que la G2R La Mondiale, indépendamment des résultats de Jean-Christophe Pernaut et Romain Bardet, ont gagné le classement par équipe. Et cette année, là, on rentre dans leur domaine parce que, pour l'instant, il faut reconnaître qu'entre les bordures, les chutes et tout ce qu'il y a pu y avoir, ils n'étaient pas sur leur terrain, et là on rentre dans les Pyrénées demain et encore les Alpes derrière. On peut penser que une triplette, sur le papier, il n'y a pas trois coureurs dans la même équipe qui puissent apporter autant de sécurité et de se soutenir.
Monsieur Germont, j'ai une petite surprise pour vous. Vous qui avez soutenu Alexis Villermoz, désormais, on est bien d'accord, son salaire est payé par la formation de Vincent Lavenue à G2R La Mondiale. J'ai une petite surprise. Notre reporter Mathieu Dalzovo est passé voir Alexis Villermoz tout à l'heure cet après-midi. Qui a un petit message pour vous. Écoutez-le.
Salut Daniel, c'est Alexis. Bah écoute, j'ai une grosse pensée pour toi encore aujourd'hui. C'est vrai que j'aurais vraiment voulu vivre la victoire avec toi à tes côtés, mais t'inquiète pas, j'ai pensé énormément à toi et voilà, je te remercie encore pour tout. Et sans toi, je pense que j'aurais jamais pu vivre ces moments et j'ai hâte de te retrouver à Mende pour fêter ça.
Et ben voilà, rendez-vous est pris. Alexis Villermoz qui a rendu hommage à son papa récemment décédé, et à vous-même, Monsieur Germont. C'est une drôle de relation presque filiale entre vous et Alexis Villermoz.
Tout à fait, parce que ça dépasse le classique. On est en contact deux fois par semaine en moyenne sur l'ensemble de l'année. Et là, j'ose pas dire que Mende, par rapport à ce qui s'est fait, je dirais pas on en redemande parce que c'est un petit peu trop facile.
Ça
nous convient. D'autant plus qu'il a déjà gagné la montée Jalabert. Sur le tour du Gévaudan, où le deuxième était que Thibaut Pinot. Ça laisse espérer. Mais on fait attention. J'ai eu Alexis il y a trois quarts d'heure au téléphone.
Encore.
On fait attention en se disant, bon, allez, n'ajoutons pas de la pression à la pression. Mais là, quelque part, bon, c'est vrai qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Et c'est son profil de grimpeur-puncheur qui fait que...
Il sera...
Tiens, Luc, avant que tu poses ta question, Luc, Thierry, Cyril, il y en a beaucoup des mécènes comme ça, des mentors pour coureurs cyclistes. On sait que ça existe dans d'autres sports, dans la Formule 1 notamment. Daniel Germont est-il unique en son genre?
Non, il n'est absolument pas unique en son genre. D'autres coureurs ont également eu, on va dire entre guillemets, recours à cette solution pour soit rentrer dans le secteur professionnel, soit, comme c'est le cas pour Alexis, y rester. Non, ça n'est pas un cas isolé, mais le sport cycliste, c'est un sport où, effectivement, à certains moments, il n'y a pas de la place pour tout le monde, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir ou se fermer, au gré des aléas de la vie, et c'est le cas pour Alexis. Mais, vous savez, les équipes, elles sont composées d'un certain nombre de coureurs. Souvent, vous aimeriez avoir tel ou tel autre coureur, mais vous n'avez plus de place parce que vous avez déjà votre quota de coureurs, votre budget est arrivé au bout et rien n'est extensible, surtout le nombre de coureurs, parce qu'après il faut faire courir tout le monde, et ça n'est pas évident.
Luc, tu voulais poser une question à Daniel Germont.
Oui, bonjour Monsieur Germont. Déjà, je suis très fier parce que la veille dans les paris RMC, j'avais mis favori, j'avais mis vainqueur Villermoz, et j'en suis très heureux. Et puis aussi, je voulais vous demander par rapport à sa performance, par rapport à sa victoire, Certes, il va y avoir un peu la pression des médias, tout ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il saura faire face à toute cette pression des médias, et parce qu'il y a beaucoup d'attentes autour de lui maintenant?
Je pense que oui, parce que l'étape étant déjà là, c'était une des possibilités, pour pas dire probabilité, sur le tour, et que à la limite, en discutant avec lui pas plus tard que tout à l'heure, bon, on dit maintenant c'est fait, où est le risque, où est la crainte, ça détend, il n'y a plus la pression comme l'ont encore certains coureurs, je suis loin en général, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, qui donne du stress, alors que là c'est tout ce qui peut arriver peut être considéré comme un plus. Donc, automatiquement, ça détend. En plus, il l'a dit un petit peu à tous les médias. Ceci dit, je m'excuse de ne pas avoir entendu dans RMC la probabilité de victoire ou la possibilité de victoire d'Alexis. Par contre, dans aucun média, je n'ai lu dans la presse du vendredi ou du samedi le nom d'Alexis.
Ça va changer.
Et là, je pense que maintenant... Donc, c'est vrai que il aura automatiquement, mais il a l'énorme avantage d'être entouré et d'encadré par Perrault et par Bardet. Donc lui, dans son esprit, l'idée de départ, enfin la stratégie de départ, c'était l'accompagnateur de Perrault et de Bardet. Donc maintenant, il est toujours là, mais la course, c'est ce qui est intéressant. La course, on ne sait pas comment ça va se jouer, parce que la montagne, c'est son élément.
Mais
quand même.
On ne ressent pas dans ses interviews, dans ses propos, on ne ressent pas la peur de la pression médiatique. Il est au contraire très serein, très détendu, ça c'est parfait.
Merci beaucoup Cyril, merci à Daniel Germont d'avoir été avec nous, et merci pour ce que vous avez fait pour Alexis. On sent que vous êtes intarissable sur Alexis Villermoz, et c'est bel et bien votre amour du vélo et c'est votre amour de ce garçon qui parle. Merci beaucoup. À bientôt Daniel Germont, bonne fin de Tour de France devant la télé, si j'ai bien compris, et rendez-vous à Mende peut-être.
Au plaisir.
Au revoir, monsieur Germont.
Je serai à l'arrivée à Mende. Ouais, je serai à l'arrivée à Mende.
On a bien compris que le rendez-vous était pris. On revient dans quelques instants pour parler des choses sérieuses qui commencent donc sur ce 102e Tour de France. L'étape de demain, c'est le premier volet de la trilogie pyrénéenne. On en parle tout de suite dans l'intégral Tour avec Luc Leblanc, Thierry Bourguignon et Cyril Guimard, toujours avec nous évidemment. Et puis on pariera évidemment sur le futur vainqueur de la Pierre Saint-Martin.
RMC Intégral Tour, Fred Adam.
De retour à Pau pour la dernière partie de l'Intégral Tour en ce qui nous concerne, parce que derrière vous aurez Virginie Fulpin et Luc Leblanc entre 20h et 20h30 pour clore les débats. Pau, traditionnel lieu de repos pour la caravane du Tour avant la montagne. Demain, c'est la première étape pyrénéenne entre Tarbes et la Pierre Saint-Martin. Messieurs, Luc Leblanc, Thierry Bourguignon, Cyril Guimard, est-ce que c'est dès deux demain qu'on attaque le dur, parce qu'il y en a trois quand même des étapes pyrénéennes. La troisième semaine sera alpestre. À quoi peut-on s'attendre pour demain ?
Demain, les choses vont être simples. C'est d'abord essayer d'arriver bien placé au pied du col, ça c'est une chose.
Parce que c'est quasiment une course de côte. La montée finale hors catégorie est presque...
Il y a un échauffement de 150 km plat.
Oui, mais on peut appeler ça une montée sèche ?
Ah, c'est une course, ça va se terminer, ça va se terminer comme une course de côte où les équipiers vont amener dans les meilleures positions au pied du col, et ça je leur fais confiance, puisque les sprinters, il y a longtemps qu'ils auront non pas mis la flèche, mais qu'ils se seront garés et qu'ils attendront que les premières pentes pour se laisser décrocher. Mais c'est aussi l'étape de la peur. C'est l'étape de la peur, parce que le premier col dans le Tour de France, et pas n'importe lequel, fait toujours des dégâts. Et personne n'est sûr, quand il arrive au pied, qu'il a véritablement la bonne patte, la bonne compression.
Qui plus est, au lendemain d'une journée de repos, Thierry, Luc, vous avez des souvenirs comme ça de moments de détresse, d'avoir coincé dans le premier grand col du Tour ?
Oui.
Oui.
La grosse défaillance que j'ai connue, c'était mon dernier tour en 99. C'était.
Ouais, mais t'étais râpé en 99.
Oui, peut-être, mais bon, j'étais pas si mal que ça. Le truc, c'est que le premier col, je l'ai passé, j'ai dû faire 3 ou 4 en haut, et la descente, le col de Mende, de Manté.
Ouais.
Et là, panne de cuisse, mais rien.
Donc c'était le porté d'aspect avant le Manté.
Non, oui, le petit col juste avant.
Oui, oui, la petite descente en lacet, là, il t'attaque tout de suite le col.
Et d'un
de
coup, tu sais pas pourquoi.
Panne de cuisse.
T'es bien dans la première, et d'un coup, tu vois passer, bon, les premiers, ça t'inquiète pas trop. Après, tu commences à trouver du gros cul, comme on dit, c'est-à-dire les gros sprinteurs. Et là, tu commences à t'inquiéter. Et puis là, j'ai cru que c'était mon premier tour que j'allais bâcher, parce que donc on a fait la descente à bloc avec un petit groupe. On est revenu sur le gros du peloton et on a limité la casse en rentrant gros péto.
Mais c'était une grosse déception, j'imagine. Luc, tu as coincé toi aussi sur la première étape de montagne d'un Tour de France?
Avec Cyril, jamais.
Ah, non, mais ça l'était.
Pour une fois.
T'étais préparé façon
de l'huile. J'étais pas avec Cyril. Là,
non, je me souviens en 91 de l'étape Pau-Racan. On sortait des étapes un petit peu plates, on arrivait de Nantes et tout ça. Et on avait la veille fait deux cols à l'entraînement, pas des cols énormes, mais des petites bosses de 5-6 bornes pour bien préparer la première étape pyrénéenne. Et le lendemain, j'avais pris le maillot jaune. Il y a aussi une anecdote, c'est l'étape de Otakam que je gagne. On partait de, je crois que c'est Agen ou Cahors, je ne sais plus, et on arrivait directement au pied de Otakam. C'est-à-dire qu'on n'avait pas monté une bosse avant, on avait monté quelques petites bosses 10 km, 15 km avant le pied d'Otakam, et des bosses de 500 mètres, 1 km et tout ça.
C'était le lendemain de la journée de repos ?
C'était le lendemain de la victoire de Jackie Durand à Cahors, je crois.
Ah oui, mais c'est pas le lendemain d'une journée de repos, quand même.
Non, c'est pas le lendemain d'une journée de repos, mais bon, pour tout te dire, on prenait le premier col de ce Tour de France carrément, directement, quoi.
Bon, tu ne coinces donc pas,
j'ai coincé dans le tour.
On avait eu quelques occasions de le vérifier déjà. Gros moteur, Luc Leblanc, évidemment. Ah oui, oui.
Tu me parles des cols.
Il y a des gamelles, là. Il y a des gamelles.
Oui. Tu me parles des cols qu'on prend directement d'un seul coup après des étapes de plaine. Et voilà, donc je t'explique ces deux anecdotes.
Tarbes la Pierre Saint-Martin, 167 km demain et trois côtes de quatrième catégorie avant la Pierre Saint-Martin classée hors catégorie. Qui s'imposera là-haut? Qui fera la différence? On parie tout de suite avec Benoît Boutron.
Les Paris RMC, Tour de France.
Benoît, bonsoir.
Salut Fred, salut la Dream Team.
Salut mon Benoît.
Ça va les gars?
Écoute,
ils sont rappelés déjà.
Elle vous a fait du bien cette journée de repos?
En tant que leader, moyen. Oui, ça m'a fait du
moyen.
Bien.
Moyen bien.
J'espère que tu vas pas péter le lendemain de la journée de repos. Hein, parce qu'après ce que tu viens de dire.
On a fait un beau rallye cette nuit. Hein.
750 km de transfert, Benoît, c'est pas toi qui t'es infusé ça.
Non, mais restez lucide parce qu'il faut aider les auditeurs à gagner de l'argent sur l'étape de demain. Le grand favori, messieurs, c'est le maillot jaune.
Tout de suite le business.
Christopher Froome,
2,90. Le deuxième, c'est Nairo Quintana, 3,80. Après, on a Purito Rodriguez à 7,50. Contador à 9,50. Et puis après, Van Garderen à 20. Pinot à 22. Moi, je vais jouer Quintana. Je l'ai trouvé pas mal sur le contre-la-montre par équipe. Et je me dis qu'il peut faire mal dès la première vraie étape de montagne.
Il faut qu'il fasse mal.
Mais il y a quand même un piège pour demain, quand même.
C'est quoi, l'autre chose?
Parce que vous mettez les favoris du tour vainqueurs. Mais il peut y avoir une échappée avec des mecs qui grimpent, qui veulent faire les grimpeurs. Et qui peut arriver au bout.
Je ne crois pas du tout, une échappée.
Et Lucho, tu vois quelque chose là comme ça?
Alors dis-nous, Luc.
Non, mais moi je fais mon pronostic à la fin.
Je crache tout de suite. Vas-y, j'ai le maillot vert, mais c'est Quintana. Je te suis là-dessus parce que.
Merci, Thierry.
Je le sens fort et impatient de tester ses adversaires. Alors le seul bémol que je mettrais, c'est la journée de repos. Parce qu'on peut avoir d'énormes surprises sur une arrivée.
Au sommet.
Franche comme ça. Et surtout aussi dur.
3,80. Elle n'est peut-être pas si franche que soi, elle pourrait être sournoise.
Cyril, ton pronom.
Compte tenu de col tel qu'il se présente, avec les parties les plus difficiles, on a quand même 4 km entre 9 et 11% répartis sur la première partie, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des regroupements si ça castagnait à ce niveau-là. Les pourcentages sont moins importants après.
Dans le final.
Et donc il risque peut-être d'y avoir un regroupement des meilleurs et je verrai bien Valverde dire au revoir à tout le monde dans ce final.
Cote de 30, Valverde, il est là, le coup de folie.
Grosse cote. Luc, ta cote maintenant, maillot jaune.
Eh bien, écoute, je vais donner, comme le disait Cyril tout à l'heure,
c'est pas complètement.
C'est pas complètement stupide ce que tu dis pour une fois, mon Cyril.
Rapidement,
pour une fois.
Mais je t'interdis de prendre Valverde.
T'es non, pas obligé de prendre... dire pour une fois.
Non, tu me coupes pas, s'il te plaît, Thierry, parce t'es que le leader est en train de donner son favori pour demain, c'est Porrito.
Porrito Rodriguez. 7,50. Voilà. Pas mal.
7,50,
c'est noté.
Merci. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Voilà, vous avez toutes les clés pour...
Tien, et le tien, Fred.
Oh, plus tard, demain. J'ai bien besoin
après
d'une...
L'étape.
Ah oui, j'ai bien besoin d'une nouvelle nuit de réflexion parce que vraiment, les organismes sont touchés dans l'équipe RMC. On récupérera des billets probablement.
Pourtant, t'as un visage d'ange.
Merci beaucoup, Luc. Virginie
oui,
Fulpin
mais
nous
pourtant,
attend.
Enfin, j'espère que non, vous n'êtes pas trop pémoussé puisque non. Luc Leblanc et Thierry Bourguignon restent avec moi
bien
là
sûr,
pour l'instant.
Bien
hein.
sûr.
Et le pari de Virginie, votre pari
mais puisque personne n'a mis Froome, moi je vais quand même mettre Froome. Il faut bien quelqu'un mettre.
Ben oui, le petit anglais.
Le petit british.
Le petit qui...
Le petit british qui frétille.
Exactement. Donc bon, c'est pas très original, mais je le dis quand même. Et donc, à partir de 20h jusqu'à 20h30, Luc Leblanc, Thierry Bourguignon répondent à toutes vos questions au 3216 et sur Twitter avec le hashtag RMC Live. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.